explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ?
Vous croyez que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Des jardins en mouvement au jardin d'Orient, aujourd'hui nous vous proposons une nouvelle diffusion de nos bivouacs dans les jardins du monde. Le jardinier philosophe Gilles Clément nous racontera comment il a remis en question bien des habitudes chez ses confrères en décidant d'arrêter de tout régenter dans son jardin et de laisser faire la nature. Au gré de ses observations, de ses voyages et de ses réflexions, il a élaboré des concepts aux noms évocateurs. Le jardin en mouvement, le tiers paysage ou encore le jardin planétaire. Ensuite, avec l'archéologue et historienne Sylvie Despontes et le paysagiste Michel Pena, nous partirons à la découverte des jardins d'Orient d'hier et d'aujourd'hui. Nous verrons que ces jardins, qui évoquent les palais orientaux et les contes des mille et une nuits, sont le fruit d'histoires et de rencontres entre civilisations. Et puis, comme tous les vendredis, en deuxième heure, nous retrouverons Anne Pastor pour un nouvel épisode de sa série « Voyage en terre indigène », une histoire oubliée des peuples francophones. Mais pour l'heure, nous partons bivouaquer dans le jardin de Gilles Clément.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin.
Le jardin extraordinaire de Charles Trenet qu'il nous décrit. Gilles Clément, emmenez-nous dans votre jardin extraordinaire. À vous, ça se trouve dans la Creuse, une petite vallée. En plus, c'est formidable, c'est une vallée où vous aviez vos habitudes quand vous étiez enfant. Et puis plus tard, vous vous y êtes installé.
Oui, c'est une chance parce que je ne savais pas du tout que je pourrais acquérir ce bout de terrain. Il avait l'avantage, d'être protégé des vents parce que c'est un petit vallon.
Ouais.
Et donc j'étais assez fasciné depuis le mois d'avril de voir des choses que je ne voyais pas du tout sur les plateaux ventés, et qui étaient des insectes. Hein. Et voilà, et c'est une très grande chance. Mais ce qui est fascinant au fil du temps, c'est qu'on croit qu'on connaît l'endroit qu'on habite. Mais comme il est fabriqué de plantes qui se transforment dans le temps, quelquefois vont plus vite qu'on ne l'imagine, d'animaux qui passent et qui habitent et qui... quelquefois abandonne le lieu et d'autres arrivent. Bref, il y a une surprise qui est quasi quotidienne. Et le jardinier, celui que je suis quand je suis là-bas, en tout cas au moins tous les après-midi, je m'interroge sur ce qui est arrivé pendant que je n'étais pas là pour regarder, pendant la nuit. Pendant...
Ouais. Ça va si vite que ça.
Ah, mais bien sûr, il y a presque tous les jours, oui, il y a quelque chose que je n'avais pas vu, qui apparaît. Qui était une jeune plante, qui quelque chose qui était peut-être là, mais que j'avais pas remarqué, quelque chose qui fleurit subitement en haut d'un... Je ne sais pas, j'ai vu un akébia un jour fleurir en haut d'un houx. Alors l'akébia est une plante exotique, je ne me souviens pas l'avoir plantée du tout.
Ouais.
Si je l'ai fait ou c'est quelqu'un qui l'a fait, enfin, bref, et tout est comme ça, c'est la surprise. Quelquefois je prends des jumelles d'ailleurs pour... dire, oui, est-ce que j'ai pas rêvé? Est-ce que, alors, j'ai des jumelles pour regarder des fleurs lointaines et souvent des insectes, bien sûr.
Ouais. Vous observez votre jardin à la jumelle alors qu'il est immobile. Oui. Vous pourriez aller vous rapprocher des choses que
Mais
vous regardez.
Il n'est pas immobile.
Et oui.
Justement. Il est en mouvement. Bon, ça, c'est le mouvement des vagabonds et pas seulement. Mais il est dans la dynamique même de la, je ne sais pas, de tout ce qui vit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Tout le temps, ça s'appelle toujours la vie invente, mais c'est pas par hasard, c'est parce que vraiment toujours la vie invente, j'en suis convaincu.
Le jardin en mouvement, évidemment, je vous tendais cette perche, c'est un des concepts, une des notions oui. que vous avez avancé. Et d'ailleurs, c'est dans cette vallée de la Creuse que vous expérimentez un peu cette façon de voir vivre le jardin et de le mettre
oui,
en mouvement.
Maintenant, c'est un peu partout, mais disons au début, c'est là.
Ouais.
Parce que comme je cherchais à garder la diversité que je connaissais, enfin même peut-être en découvrir d'autres et peut-être l'accroître. Et je me disais, il ne faut pas que je fasse ce que l'on m'a appris, qui était à tuer. On m'avait appris juste à tuer.
Ouais.
On élimine ce que l'on ne veut pas garder.
Ouais.
Donc on tue bah, tout le reste, quoi. C'est assez fou, hein, comme attitude.
Le jardinier, vous, la façon dont on vous l'a appris, le métier de jardinier, c'est on tue les insectes, on tue les mauvaises herbes.
Tout ce qu'on ne cultive pas, tout ce que l'on n'exploite pas. Et aujourd'hui, c'est plutôt les exploitants agricoles qui sont dans cette attitude-là. Mais enfin, il y a encore des jardiniers qui font ça, hélas. Donc moi, je me suis dit, ben non, je vais pas faire ça. Je vais garder, mais je ne savais pas quoi faire, du tout. Et donc j'ai attendu, quelquefois même, j'ai pris un an et deux avant de dire j'interviens là ou là. Et finalement, je me suis rendu compte un jour où une plante est arrivée dans un endroit qui était plutôt un passage, assez étroit, mais un passage. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais cette plante? Je l'aime bien, c'était la grande berce justement. Je l'aime beaucoup, qu'est-ce que je fais?
Enfin, c'est le titre de l'un de vos ouvrages. Hein,
qui raconte l'histoire, justement, cette histoire-là. Le désir d'avoir un jardin qui m'oblige à construire une maison parce qu'il n'y en avait pas. Alors, je me suis fait maçon pendant ce temps-là, mais enfin bon. Et là, je me dis, je fais quoi avec cette plante? Et je sais qu'elle est vagabonde parce qu'elle ne peut pas se reproduire autrement que par la graine. C'est ce qu'on appelle une térophyte. Elle meurt après avoir fait la graine. Elle se déplace et la graine, elle change de place. Elle est véhiculée par quelquefois le vent ou des animaux. Comme elle meurt après avoir fait la graine, c'est pas une plante vivace, elle n'a pas de possibilité de se multiplier végétativement. Je me dis, de toute façon, il n'y a pas de danger, je peux la laisser là, elle ne sera plus là après, je passerai de nouveau. Et moi, je change mon chemin à ce moment-là. Autrement dit, je respecte quelque chose qui est de l'ordre du déplacement physique sur le terrain. Et c'est les raisons pour lesquelles j'ai appelé ce mode de jardinage, qui n'est que le respect de l'énergie des plantes, le jardin en mouvement.
Ouais. Il suffisait d'attendre, finalement. Elle allait se déplacer d'elle-même, cette plante, dans le chemin. Cette grande berce du Caucase, elle ressemble à quoi, exactement?
Elle ressemble à une angélique immense. Oui. Vraiment, elle peut monter jusqu'à 3 mètres de haut, avec un plateau d'ombellifères qui peut faire 1 mètre 50. C'est hallucinant et qui attire énormément d'insectes. Elle est très, très mal vue, parce que, en dépit de sa beauté, parce qu'elle attire trop d'insectes, justement, mais parce qu'elle est photosensibilisante. Et quand on la touche, on peut avoir la peau qui brûle si on se met au soleil. Bon, ça c'est un défaut, il suffit juste de le savoir. Et surtout, elle est classée parmi les invasives, mot que moi-même je n'emploie pas. Elle est juste une vagabonde, hein. C'est tout. Et en plus, je la jardine, je sais comment faire pour qu'elle ne devienne pas envahissante, justement.
Alors ça, c'est vraiment intéressant, hein, parce que effectivement, on reçoit régulièrement à la radio, dans nos émissions, des scientifiques qui s'alarment de cette notion d'espèces invasives, qui nous disent il y a des espèces du monde entier qui viennent un peu manger le pain de nos espèces à nous, bien de chez nous, et du coup, elles leur prennent la place, elles leur prennent la niche écologique, et ils considèrent que c'est un problème. Et vous dites, je n'emploie jamais ce mot.
Pas du tout, c'est pas du tout un problème, c'est un des mécanismes de l'évolution qui... avec l'activité, l'action humaine qui, c'est vrai, accélère le brassage planétaire, prend des proportions qui sont spectaculaires. Ça, c'est vrai. Et il peut y avoir quelques plantes qui en pâtissent. Mais enfin, c'est ridicule le nombre d'espèces qui disparaissent sous cette mécanique du brassage planétaire. Elles disparaissent parce qu'on supprime les habitats, parce qu'on fait des aéroports dans des marais, ou bien parce qu'on imperméabilise et tout. Et surtout parce qu'on pollue. Parce qu'on pollue. Là, on tue. Mais sinon, c'est quoi? C'est la mécanique de l'évolution, tout simplement. Les chênes qui sont arrivés chez nous et que l'on a sacralisés parce que, soi-disant, les druides, je ne sais pas quoi, notre culture, notre... Mais ce n'est pas vrai, ils n'étaient pas là avant. C'est les geais qui ont perdu leur gland à force de voyager depuis la péninsule ibérique ou d'Italie. Ça ne veut rien dire, tout ça. Il n'y a pas d'indigénat. Ça n'existe pas. À quel moment est-on indigène? On n'en sait rien. Donc, nier ce mécanisme-là, qui, depuis la nuit des temps et avant même que nous ne soyons là, c'est ne rien avoir compris à l'écologie.
Les plantes voyagent depuis qu'elles existent.
Mais évidemment.
C'est ce que vous nous dites.
Mais bien sûr.
Alors peut-être que certains de nos auditeurs, qui peut-être ne vous connaissent pas encore, se disent « c'est bien joli tout ça, il a laissé pousser un peu tout et n'importe comment dans son jardin, mais concrètement, quand on veut faire un jardin public, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de concept ?» Eh bien en fait, on fait des très beaux jardins avec ce genre de concept, notamment à Paris, le jardin André Citroën. Alors il existe depuis un moment, on a pu le voir évoluer, 1992.
Voilà, ça c'était la date de l'inauguration. Le concours a été en 85. La mise en place du jardin en mouvement lui-même vers 6 ou 7, je ne sais plus, puis il y a eu l'inauguration. Et ça a été très difficile à faire accepter, mais ça a été accepté, pas là où on voulait le faire avec Patrick Berger, l'architecte avec qui j'ai travaillé, mais enfin sur un coin. Et je pense que les autres personnes impliquées dans ce projet et nos commanditaires avaient pensé que, bon, très vite, on abandonnerait tout ça et ça redeviendrait du gazon bien tondu. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Ça a été accepté, d'autant plus que les médias s'en sont saisis tout de suite.
Alors, à quoi il ressemble ce jardin? Décrivez-le nous pour ceux qui ne vivent pas à Paris. Alors, ou qui ne l'ont jamais vu.
Il ressemble à un ensemble qui est foisonnant, qui peut avoir l'air désordonné éventuellement, mais dans lequel on peut tracer des passages en fonction de ce que le jardinier décide d'éliminer. Et ça peut être large ou étroit, et ça forme des îles en quelque sorte. Et dans les îles, il y a la diversité que le jardinier veut garder. Autrement dit, il faut que le jardinier, lui, soit à la fois quelqu'un qui reconnaît bien les plantes, donc c'est un vrai naturaliste, il est un savant, mais il est aussi un artiste, c'est un plasticien. C'est lui qui va décrire la courbe de l'île en question, et de l'étroitesse ou la largeur du chemin, et ainsi de suite. Donc il est un compositeur. Mmh. Et il a besoin d'un outil pour ça, alors peu importe, mais c'est un dessinateur. Ce n'est pas le jardin mouvement, on ne le fait pas sur un papier ou sur un ordi en amont en disant on applique cette forme-là, pas du tout. Ouais. La forme arrive en fonction de ce qui se passe sur le terrain.
Ouais. On s'adapte on essaye de, je ne sais pas si le mot va vous plaire, j'allais dire maîtriser, mais je pense que déjà vous trouverez ça un petit peu trop.
On dialogue.
Oh, on dialogue, voilà. C'est beaucoup mieux, on dialogue. Ouais. Alors vous êtes allé encore plus loin dans cette idée de laisser faire, il y a cette notion de tiers paysage, et là on peut trouver un très bel exemple, on va du côté de Lille, là vous avez fait quelque chose de superbe, c'est-à-dire que il y a un parc qui obéit un peu à ces mêmes concepts, hein, de jardin en mouvement. Et au milieu de ce parc, un endroit dans ce parc, ça fait 7 mètres, c'est très haut. Mm-hmm. Au-dessus, c'est de la terre. Personne n'y est jamais allé. Vous avez laissé ce terrain en friche. On a donc une sorte de plateau, hein, comme ça, dans ce parc. Ce sont les oiseaux qui ont amené les graines, le vent. Comme ça a été fait il y a longtemps, maintenant, c'est foisonnant. Depuis le bas, on voit, c'est verdoyant, ça explose de biodiversité. Pas un seul jardinier n'est venu s'occuper de ce terrain-là.
Non. Alors, c'est un morceau de paysage offert par la nature, et Soclé. C'était ce qui reste d'une colline qui était la fabrication de la gare TGV, donc ce sont les gravats. Et j'ai proposé qu'on en garde une partie. Au départ, ça devait être une forme carrée, c'est devenu une autre forme, la forme d'une île qui existe aux antipodes de la ville de Lille, qui s'appelle l'île Antipode, et qui est à la Nouvelle-Zélande, et qui a le même statut, un peu de sanctuaire, on n'y va pas. Et donc on ne peut pas y aller à cause de la hauteur. Oui. C'est pas l'objectif absolument du tiers-paysage que de dire on ne va pas dans ces lieux qui sont des lieux d'abandon, mais qui sont surtout des lieux d'accueil à la diversité chassée de partout ailleurs. Mmh. Parce que, bon, pour les raisons qu'on a évoquées déjà. Et donc, ils sont devenus des lieux précieux. Il n'y a effectivement pas d'intervention dans ces endroits-là. Il n'y a donc pas de jardin, donc ça ne s'appelle pas jardin. Tiers-paysage, pour des raisons qui sont l'analyse, suite à l'analyse que j'avais pu faire à l'origine autour du lac de Vassivière, c'est une commande, et je voyais un paysage binaire, forêt, c'est l'ombre, lumière, c'est les pâtures. Je cherchais la diversité, je la trouvais ni dans l'un ni dans l'autre, sauf dans les lieux abandonnés. Et je me dis, mais alors c'est quoi? C'est tous différents les uns des autres d'aspect. Je les assemble sous le terme de troisième paysage, celui de la diversité, et je me réfère à Sieyès au moment de la Révolution française qui dit qu'est-ce que le tiers-état? Eh bien, tout le monde, c'est la diversité, justement. Qu'aspire-t-il à devenir? Qu'a-t-il fait jusqu'à présent? Ben rien, il n'avait pas les moyens. Qu'aspirait-il à devenir? Quelque chose. Voilà, moi je pense que là on a un trésor et que nous pouvons le regarder comme quelque chose qui dirige, oriente notre futur.
Cette mélodie qui longe la Seine du quai des Tournelles à l'île Saint-Louis, je la fredonne et pense à Verlaine, à François Villon, perdu dans la nuit. Mais pour retenir cette ombre qui passe et qui fait semblant de n'être qu'une ombre qui brille et s'efface au fil du courant. Belleville, une chanson d'Apache, un refrain d'avant qui n'existe plus que dans les vieux films, quand le paradis avait des enfants. 3 heures du matin, quand passe le crime sur les marais chauds, Le sang et la peur sont dans les vitrines ou les caniveaux. Comme un drap froissé, le ciel se déplie sur la ville grise. Un soleil mouillé réchauffe les eaux de l'académie. L'heure où les poètes sont sur le pavé. C'est la chanson de Paris la grise qui tiendra le jour entre ses deux mains sur un air venu du temps des cerises. Un accordéon en joue le refrain. C'est la chanson de Paris la grise qui tiendra le jour entre ses deux mains sur un air venu du temps des cerises. Un accordéon en joue le refrain.
C'était Bernard Lavillier, Paris la Grise.
Là, je fais un désherbage sélectif. C'est-à-dire que là, on est dans une parcelle, donc le Namaqualand, où je favorise le semis naturel de deux plantes. Le Dimorphoteca sinuata, ici, qui est une plante sud-africaine. Et puis le Chrysanthème des moissons, qui est une plante méditerranéenne classique et qui fait des très belles fleurs jaunes. Le Namaqualand, c'est un désert qui, lors de la première pluie, se couvre de fleurs. Donc continuellement, pour retraduire ce paysage-là, faut en même temps que je laisse faire et en même temps que je laisse des petites portions de terrain nu de façon à ce que les graines puissent se retrouver au sol et aient une chance de regermer.
Nous étions avec quelqu'un que vous connaissez bien, Gilles Clément, Alain Manceau, qui est chef jardinier du domaine de Rayol. Là aussi, c'est un de vos coups, le domaine de Rayol, si j'ose parler ainsi. Alors, on se trouve face aux îles d'Hyères, dans le Var, entre le Lavandou et Saint-Tropez. Et c'est une de vos grandes réalisations, Gilles Clément. Alors, racontez-nous ce projet.
Mais en 88, un représentant du Conservatoire du Littoral, Jean-Philippe Grillet, m'invite à visiter ce domaine qui était abandonné depuis environ 14 années. Donc c'était un état de friche assez beau. Hein. Mm-hmm. Et il y avait quelques passages dans les épineux, mais on voyait quelques arbres morts suite aux hivers précédents très froids, et c'est tout. Mais quand même un lieu magnifique avec beaucoup de charme. Et là-dessus, on me demande un projet. Et il fallait que le projet soit accepté par la mairie pour que le conservatoire l'achète, parce que s'il ne voulait pas de tension. Alors j'ai fait un projet en me basant sur l'idée qu'on pourrait développer la question d'une flore qui est adaptée au climat méditerranéen, mais qui est plutôt de l'hémisphère austral, parce que j'avais remarqué qu'il y avait déjà des eucalyptus et des mimosas qui sont des plantes d'Australie, et on pouvait peut-être développer ça. Je connaissais ces régions du monde, je trouvais extrêmement dommage qu'on ne puisse pas en profiter. Il n'y aurait aucun problème climatique et c'était mon idée déjà d'avoir des espèces qui ne demanderaient pas d'assistance, pas d'eau, pas d'énergie contraire pour arriver à les faire pousser puisqu'elles étaient dans leur zone climatique.
Des espèces venues d'ailleurs mais adaptées aux conditions climatiques du lieu.
Absolument, le biome méditerranéen, ce qu'on appelle un biome, c'est un ensemble de compatibilité de vie sous un climat déterminé. Il est réparti dans différents endroits. Il y a le Chili central, l'Afrique du Sud, le sud-ouest de l'Australie, un peu de Nouvelle-Zélande, un peu évidemment Californie, etc. Donc c'est des flores tout à fait intéressantes, assez différentes hein, les unes des autres. Et le projet a été celui-ci, montrer des paysages identifiés par des plantes caractéristiques de ces régions-là et qui donnent des paysages effectivement distincts. Il y a aussi des convergents, hein, mais bon. Et à ma surprise, mais je m'en doutais un peu, il y a eu, et c'était les scientifiques d'Afrique du Sud, à Kirstenbosch Garden, près du Cap, qui me l'ont apprise, qu'il y a eu la révélation du feu. c'est que toutes ces plantes, dans toutes ces régions du monde, vivent avec le feu depuis extrêmement longtemps, bien avant même que l'homme ne soit sur la planète. C'était déjà comme ça. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un conditionnement. C'est le mécanisme même de l'évolution lamarckienne. Le feu arrive, probablement fait une sélection darwinienne, mais sur la flore qui reste et qui s'adapte petit à petit avec la récurrence des feux annuels à la fin des étés, il y a quelque chose qui fait que la plante se transforme. C'est le transformisme, c'est-à-dire on acquiert quelque chose dans le courant de sa vie, on le passe à sa descendance. Personne n'en parle. Mmh. On ne sait pas pourquoi on ne parle pas de ça. On dit la sélection et c'est tout. Bon, aujourd'hui, le transformisme, la transmission des caractères acquis est plutôt attribuée à ce qu'on appelle l'épigénétique et non pas la génétique. Mais peu importe, le résultat est là, quoi. Mmh. On devrait parler de ça.
Ben on le fait. Voilà. Donc ces caractères qui se transmettent en fonction de ce que vivent ces plantes.
Vous avez deux êtres, un qui est bon parce que sur le moment il a toutes les caractéristiques, il est compétitif, je sais pas quelle bêtise, et l'autre il est pas bon parce qu'il est un peu lent, parce que quoi. Mais il va peut-être changer dans le courant de sa vie. Le transformisme, ça donne de l'espoir. Mmh. L'autre, pas du tout. C'est pas la même chose philosophiquement. Ouais. Donc je trouve qu'on devrait parler des deux parce que les deux existent. Bref, j'apprends ça. Moi, je m'intéresse beaucoup et je dis au conservatoire, voilà, le feu est un outil du jardin planétaire. Alors là, il y a eu un petit coup de froid, si on peut dire, parce que il a dit, bon, ils vont nous prendre pour des pyromanes.
Ouais.
On peut pas en parler. Et ça, ils étaient d'accord avec le principe, mais c'est évident, c'est un constat. Ouais. Mais sauf que c'était difficile d'en parler. Maintenant, on en parle.
Il fallait connaître un peu la recette. C'est étonnant, effectivement. Ouais. Vous êtes un peu iconoclaste, hein, dans vos démarches.
Mais c'est la nature qui est inventive.
C'est vrai.
Moi, je fais un constat, puis c'est tout.
Ouais. Alors, ces plantes, vous êtes allé les chercher dans vos voyages, hein, aux quatre coins du monde, enfin en tout cas dans les latitudes qui permettaient d'avoir ces climats qui ressemblaient à la Méditerranée. Et puis finalement, maintenant, c'est nous que vous faites voyager, parce que quand on visite ce jardin, on a l'impression de voyager très loin.
Oui, alors ça, c'est très étonnant, parce qu'en effet, on passe d'un paysage à l'autre. Alors, quelquefois, on traverse la flore indigène qui crée une espèce d'écran d'un de ces paysages à l'autre. Et on rencontre des plantes qui se ressemblent énormément. Le dasylirion mexicain fait beaucoup penser au black boy australien, qui lui-même ressemble à la restio d'Afrique du Sud. Mais peu importe, ça, ouais, c'est des convergents. Tout le reste, c'est des entités très particulières. On parle un peu d'ethnobotanique, mais on parle surtout de la gestion par du feu, bien sûr.
Ce que vous dites des convergents, ce sont des espèces qui ne sont pas du tout apparentées, ou en tout cas très très éloignées dans l'arbre de l'évolution, mais dont voilà, les pressions de sélection ont fait qu'elles se ressemblent au final.
On appelle des vicariants. Se ressemblent parce que les pressions climatiques ont fait qu'il y avait des raisons pour ça. On sait bien que sous les climats secs, et le climat méditerranéen peut être extrêmement sec, il y a une cuticule épaisse, il y a quelquefois des transformations en épines, il y a des plantes qui ont des épines qui sont en fait des feuilles transformées. Mmh. Il y a de l'eau qui se stocke dans certains tissus, c'est le cas de certaines tiges, de cactées, etc. Donc il y a des points communs, ouais, mais il y a aussi des divergences.
On entre complètement dans ce que vous appelez le jardin planétaire. Quand on vous entend parler, voilà, tout ça se tient, tout est lié.
Oui.
C'est la notion de jardin planétaire qui vous tient à cœur également.
Oui, c'est très important. Le jardin planétaire, c'est la planète considérée comme jardin. C'est le lieu de notre bain, je sais pas comment on peut dire, on baigne tous dans la même eau. Voyez l'eau, vous m'avez donné de l'eau, c'est gentil. Alors celle-là, elle a été déjà bu par des plantes, par des animaux et par des humains,
ouais,
plusieurs fois. Ça fait un choc. Alors on évapore, voilà, on fait bibi, hein, comme tout le monde, hein, ça s'en va dans le ruisseau, ça va dans la rivière, qui va dans l'océan, ça s'évapore, ça fait un nuage, ça tourne autour de la planète, ça tombe, on la boit, elle vient d'où? Et comment fait-on dans le futur pour remettre dans l'atmosphère de l'eau qu'on a pris, qu'on a déjà utilisée? Mmh. Et pour qu'elle soit buvable dans le futur, c'est une vraie question. Jardin planétaire, c'est ça. C'est juste ce petit territoire sur lequel nous sommes, on fait comment pour le gérer? Et ça répond complètement à la définition de l'enclos, qui est ce dont on parlait tout au début. C'est un enclos, la vie est enfermée dans les limites même de la biosphère. Hein. C'est pas beaucoup de mètres au-dessus du niveau de l'eau, ni en dessous.
Ouais. On entend, hein, qu'il y a un message politique dans votre façon de jardiner. Vous êtes d'ailleurs un militant. On peut faire de la résistance en jardinant, on peut militer. Vous êtes un jardinier militant?
Oh, sans doute, sans m'en rendre compte, j'ai jamais voulu faire ça. Et la politique, je pensais jamais un jour y rentrer d'une manière ou d'une autre. Il se trouve simplement que se poser la question de savoir comment on préserve la vie, comment on fait, ça devient politique, sans qu'on s'en rende compte. Au départ, moi, quand j'ai fait le premier texte sur Jardin en mouvement, je savais pas qu'il était subversif. Je m'en rendais pas du tout compte. J'avais juste fait ça pour expliquer aux étudiants ce que je faisais. puis après, c'est devenu un sujet politique.
Mmh. Oh, on peut faire aussi de la résistance quand, par exemple, certains produits non homologués sont interdits et on fait pousser un grand champ d'ortie. On invite les gens.
C'est ce que vous avez fait. Là, c'est conscient. Mais parce qu'il y a des lois absurdes. Il y a un moment où il faut devenir vraiment subversif, pour le coup, résistant, et dire, attendez, là, vous nous faites une loi qui est inacceptable, que nous ne devons pas l'accepter. Ouais.
Expliquez pour ceux qui n'ont pas suivi
les purins, ce qu'on appelle les PNPP, les produits naturels peu préoccupants, il faut croire que ça préoccupe quand même quelqu'un, sont simplement des substances qu'on obtient, ce sont des fermentations à partir des feuillages de la consoude, de la prêle, l'ortie et d'autres choses, et puis on l'utilise en dilution, et ça renforce, on arrose les plantes, qui sont généralement celles du potager, et ça renforce l'immunité des végétaux, on n'a plus besoin de mettre les fameux produits toxiques, aujourd'hui qui sont en plein sujet de conversation, hein. Qui sont extrêmement dangereux et qui peuvent tuer plutôt le jardinier que le puceron, bon d'accord. Et alors bon, c'est intéressant, mais c'est gratuit. Ça, c'est dangereux. Alors là, on interdit. Et il y a un législateur qui est poussé par les lobbies et qui dit, vous n'avez plus le droit d'utiliser. Mais comment on accepte ça? Mais c'est insupportable. Interdiction d'accès aux biens communs, ça veut dire quoi? Donc plusieurs, et je ne suis pas le seul, hein, sont montés au créneau. Et moi, j'ai fait un jardin pour la ville de Mel, à l'occasion de la Biennale d'art contemporain, qui m'a sollicité à travers Dominique Trucot, la commissaire, en me disant qu'est-ce qu'on fait. J'ai dit, ben tiens, la loi vient de passer, elle venait juste de passer, dite d'orientation agricole. J'ai dit non, c'est pas possible. Il y avait un champ avec des orties, on fait un jardin d'orties. Alors, c'était des sentiers tracés dans les orties, ça existe toujours. Hein. Une plateforme créée, un filtre au milieu, un peu spectaculaire, un peu grand, comme une sculpture. Et on fait le filtrage et on le donne, le purin d'ortie, tous les vendredis, jour du marché, à tous ceux qui veulent. C'est gratuit, sinon on serait en prison. Mais enfin, bon, depuis, il y a eu quand même des amendements à la loi, et soi-disant, ce serait autorisé, sauf que la France l'a laissé dans les phytopharmaceutiques et que c'est interdit par l'Europe. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein.
Little girl wants to look around. Little girl just hears a sound. Today is the day of the whistling train. Today is the day of the blowing rain. Last day hanging around. Last day touching the ground. Today is the day. Today of the whistling sound.
whistling train. Today is a day of the blowing rain. A one-way train ticket, a one-way life ticket. Make it on your own.
The Inspector Clouseau, Little Girl and the Whistling Train sur France Inter, le temps d'un bivouac.
T'aimes les feuilles ?
Oui.
C'est comme moi !
Daniel Fievé.
Je peux te dire un court poème ?
Le temps d'un bivouac.
Oh, c'est la cueillette ! Vous foutez ! On cueille.
Sur France Inter.
Il y a 2 ans, l'Institut du Monde Arabe consacrait une très belle exposition au Jardin d'Orient. À cette occasion, nous avions reçu l'archéologue et historienne Sylvie Despontes, qui était commissaire de cette exposition, et le paysagiste Michel Pena, qui y avait participé. Tous deux nous avaient emmenés dans un joli voyage dans les Jardins d'Orient d'hier et d'aujourd'hui. Nous avions envie de repartir bivouaquer avec eux dans ces jardins aux descriptions enchanteresses.
C'est là que j'ai rêvé tout éveillé. Je me trouvais dans les jardins des mille et une nuits. Tiré par des milliers de palmiers, un prodigieux feu d'artifice vert s'élance dans la lumière bleue. Sous l'ogive des allées, un soleil doré, filtrant entre les palmes immobiles, allume des taches plus vertes sur les gazons. Des régimes de dattes pendent par milliers, lourds et savoureux. Les yeux sont éblouis et le palais s'émeut.
On commence donc par une oasis dans le désert, notre petit parcours parmi les Jardins d'Orient. Les oasis, c'est une des formes du Jardin d'Orient, Sylvie Despontes ?
C'est une des origines en tout cas, puisque effectivement, on fait dans cette exposition, on remonte l'histoire des Jardins d'Orient bien avant l'islam, c'est-à-dire la plus haute antiquité, et au moment où dans le croissant fertile s'installent les premières grandes civilisations urbaines. Qui dit ville, dit jardin, il faut se nourrir. Et on entend dans ce que vous venez d'entendre, effectivement, l'admiration pour les fruits, pour les fleurs. Et c'est très très important ce jardin dont on doit se nourrir. C'est un des aspects que Michel Pena a largement développé dans le jardin du Parvis. L'oasis, c'est à la fois le point d'eau, l'origine même du jardin. C'est un endroit où on s'installe, on se sédentarise et on use toutes les possibilités du territoire, du restreint même autour de ce point d'eau, pour pouvoir l'exploiter au maximum et en tirer une végétation extraordinaire qui permet de vivre et même d'exercer un commerce extrêmement fructueux. Alors, on voulait absolument approcher ces jardins mythiques, ces jardins qui font rêver à toutes les époques, qui ont toujours transporté les hommes dans un monde merveilleux, de les visiter de façon extrêmement pragmatique, de les revisiter parce qu'ils ont de techniques, d'imagination immédiate et d'écriture et de formes plastiques, mais pragmatique, l'eau, la façon de gérer les plantes, la façon d'etc. Et les revisiter avec nos yeux d'aujourd'hui, avec nos yeux de concepteurs d'aujourd'hui, comme Michel et comme François Blanet qui a réalisé la morphose, mais aussi que les historiens prennent le temps de prendre des chemins un peu différents et de ne pas reprendre simplement les images iconiques qu'on connaît.
Oui, ça permet d'explorer la géographie, le climat, l'histoire. Voilà. C'est vraiment une porte d'entrée formidable sur ces cultures et sur leur histoire. Alors, on a cité plusieurs fois depuis le début de cette émission le fameux croissant fertile, Sylvie Despontes. C'est quoi ? On peut le délimiter géographiquement ?
C'est un nom un peu, qui a été surtout véhiculé au 19e siècle et qui effectivement se délimite avec les grands fleuves, le Tigre, le Frat, etc., et le Nil, dans lesquels instinctivement, on ne peut pas dire que ce soit des territoires extrêmement, des territoires arides, semi-arides, et on n'imagine pas effectivement cette fertilité. Les grands fleuves déposaient des limons, donc il y avait quand même une terre qui était extrêmement riche, et très très tôt a été non seulement on a implanté les premières grandes villes États, mais en même temps, très vite, ces occupants ont su maîtriser l'eau, ont su l'acheminer et ont su la gérer à la fois dans la façon de l'acheminer vers les lieux qu'ils voulaient irriguer, et la ville bien entendu, mais également les palmeraies, les grands espaces cultivés pour pouvoir se nourrir, mais également la gérer de façon économe. Et ça, c'est une grande leçon des jardins arabes, c'est-à-dire garder cette eau, la maîtriser avec économie et arriver à la gérer de façon extrêmement riche pour pour les plants et plantes sur lesquels
de façon
parcimonieuse
voilà,
et
quand même
ingénieuse,
avec ingénieuse
de sorte qu'on la met en scène en permanence et on a l'impression qu'elle coule à foison alors qu'elle est en fait simplement extrêmement bien gérée et canalisée.
Toutes les sources affirment que les jardins suspendus ont été construits à Babylone. On a donc supposé que c'était là qu'ils devaient se trouver. On a trouvé de nombreuses inscriptions que Nabucodonosor faisait placer dans les fondations de ses monuments. Il y parle de l'édification et de la rénovation de temples, de la restructuration des cultes anciens et aussi des grands palais qu'il fait bâtir à Babylone. Mais parmi les centaines de documents étudiés, aucun ne fait mention de jardin.
Extrait du documentaire « Les jardins suspendus de Babylone » réalisé par Lee Green en 2013 pour Arte. Sylvie Despontes, ces jardins suspendus de Babylone, c'est à la fois un rêve, c'est à la fois un mythe, certains prétendent qu'ils ont existé. S'ils ont existé, c'était à quelle époque ?
Alors, c'était du temps de Nabucodonosor, effectivement, mais ont-ils vraiment existé ? C'est la grande question. En fait, on n'a pas trouvé de traces. C'est certain, jusqu'alors, on n'a pas trouvé de traces. On imagine qu'ils étaient peut-être à Ninive, c'est d'ailleurs ce qui a été développé comme thématique dans l'émission d'Arte auquel vous faites allusion, parce qu'il y a effectivement des bas-reliefs. On a trouvé d'abord des traces, plus ou moins lisibles, et on a des bas-reliefs de Ninive où on voit effectivement des plantes, des arbres plantés sur des voûtes. En réalité, ce qui est certain, c'est que ça faisait partie des sept merveilles du monde pour le monde antique, qu'il y a eu quand même beaucoup de récits qui racontaient les merveilles de ces jardins, mais qu'en réalité, on ne sait pas vraiment où ils étaient et à quoi servaient-ils. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure du rôle du jardin. À quoi servaient-ils ? Était-ce des jardins d'agrément ? Était-ce des jardins nourriciers, comme on l'évoquait tout à l'heure ? Était-ce des jardins dans un camp retranché à l'intérieur de la ville, puisqu'il y avait des murailles épaisses qu'on a bien retrouvées ? On ne sait pas véritablement. Ce qui est sûr, c'est qu'on en rêve encore.
On en rêve encore. S'ils ont existé, c'était il y a
j'ai plus de date exacte.
Il y a plusieurs millénaires. Comme ça, on restera suffisamment flou pour ne pas dire de bêtises. Et ça a été repris, les sept merveilles du monde, c'est
absolument
bien plus tard.
C'est beaucoup plus tard. Et quand on en parle en décrivant effectivement ces jardins comme des jardins luxuriants, avec une végétation absolument extraordinaire. Mais... on a fait des inventaires des plantes. On sait à peu près quelles étaient les plantes qui figuraient dans ce jardin. Mais en réalité, tout ça, ce sont des écrits très a posteriori.
Ils sont
beaucoup plus tardifs.
Ça fait partie des grands mythes, des grandes
de l'imaginaire collectif concernant les jardins. Avec un émerveillement. Alors, ça fait partie de la mythologie du jardin oriental, l'émerveillement. C'est-à-dire qu'effectivement, on part, on traverse le désert et on arrive devant des villes qui sont végétalisées de façon luxuriante. Ça, c'est sûr. Parmi celles-là, sans doute, Babylone.
Alors, à quoi ressemblait-il ?
Alors,
on
dit que c'était des jardins construits sur des terrasses, donc suspendus, des jardins suspendus comme on imagine un petit peu aujourd'hui les toits végétalisés, les façades végétalisées. Ça, dans notre écriture d'aujourd'hui, ça répond à quelque chose qu'on peut imaginer assez facilement, mais en réalité, on ne sait absolument pas. Alors, dès l'Antiquité, on les a décrits, le XVIe, le XVIIe siècle, les abondamment dessinés, Aujourd'hui, on les réinterprète, Michel.
Ah oui, Michel Pena, c'est au moins, même s'ils n'ont pas existé, ils ont au moins ce mérite-là, c'est d'être évocateurs et inspirants pour les paysagistes d'aujourd'hui.
Bien sûr, et pour nous, c'est un désir. Ouais. C'est-à-dire qu'ils créent ce désir, et en effet, ce rêve-là est indestructible. Et je pense que de toute façon, tout jardin est éphémère, et tout jardin est fragile, est extrêmement fragile, donc nécessite beaucoup d'entretien, de soins, d'amour, et cette négociation amoureuse d'une parcelle du monde avec la nature, comme souvent je le dis, cette négociation amoureuse, elle est délicate et comme tout amour, elle s'évapore ouais. quelquefois.
Donc, vous dites, pardon, je vous interromps, parce que c'est une jolie formule que vous nous glissez rapidement comme ça, mais pour vous, un jardin, c'est une négociation amoureuse avec la nature.
Oui, c'est ça, une négociation amoureuse d'une parcelle du monde avec la nature. Et ça, donc, on voit bien que c'est un travail qui a été fait dans les déserts, en effet, c'est ce travail-là pour amener les plantes, pour les faire pousser dans des conditions très difficiles, artificielles, ce qu'on fait nous, si vous voulez. Dans les jardins de nos villes, on est toujours en situation de jardin suspendu. Quasiment ouais. toujours. On est toujours sur dalle, on est toujours dans des endroits infertiles, pollués. Donc on est obligé de se retrouver dans situation suspendue. Ce qui en effet est en même temps une situation que j'appelle une espèce de troisième nature, une nature inventée, une nature artificielle, et néanmoins une nature. Et je crois que la valeur nourricière même, Sylvie Dupont parlait tout à l'heure, mais l'émerveillement, il vient aussi des fruits. Lorsqu'on entre dans une orangerie, lorsqu'on est dans le désert et que tout d'un coup on découvre une orangerie parce qu'il y a une source, qu'il y a une oasis, évidemment c'est merveilleux. Pas besoin d'avoir des effets plastiques, de couleurs extraordinaires. Déjà le fait de pouvoir produire des fruits est une chose merveilleuse.
كان كل يوم معايا يشاركني في الأحلام.
C'était El Known de Natasha Atlas et la programmation musicale est signée Djoubaka. Nous poursuivons notre découverte des Jardins d'Orient en compagnie de l'historienne Sylvie Despontes et du paysagiste Michel Pena pour découvrir les différentes facettes de ces jardins orientaux. Passons par un conte des Mille et Une Nuits. Dans ce conte, la narratrice fait face à 100 portes et derrière chacune de ces portes se trouve un jardin différent.
Je pris la première des clés des autres portes qui étaient rangées par ordre. J'ouvris la première porte. Et j'entrai dans un jardin fruitier, auquel je crois que dans l'univers, il n'y en a point qui soit comparable. La symétrie, la propreté, la disposition admirable des arbres, l'abondance et la diversité des fruits de mille espèces inconnues, leur fraîcheur, leur beauté, tout ravissait ma vue. Je ne dois pas négliger de vous faire remarquer que ce jardin délicieux était arrosé d'une manière fort singulière. Des rigoles creusées avec art et proportion portaient de l'eau abondamment à la racine des arbres qui en avaient besoin pour pousser leurs premières feuilles et leurs fleurs. D'autres en portaient moins à ceux dont les fruits étaient déjà noués. Les autres rigoles, enfin, qui aboutissaient aux arbres dont le fruit était mûr, n'avaient d'humidité que ce qui était nécessaire pour le conserver dans le même état sans le corrompre. Je ne pouvais me lasser d'examiner et d'admirer un si beau lieu. J'en sortis l'esprit rempli de ces merveilles.
Sylvie Despontes, la place de l'eau, elle est centrale dans ces jardins d'Orient.
La place de l'eau est absolument centrale, mais il y a un point qui est très important dans ce très beau récit, c'est la porte. C'est-à-dire que le jardin oriental est un jardin clos, c'est un monde à part, c'est un monde qui est dans lequel on vit intimement. On est caché derrière les murs, caché derrière les arbres, parce que c'est pas forcément des murs d'ailleurs, et on est dans un espace clos. Et dans cet espace clos, les fruits sont en abondance, l'eau est en abondance, alors qu'effectivement c'est un élément extrêmement rare. Et l'eau et les plantes et les fruits forment effectivement ce microcosme paradisiaque qui est le jardin. Mmh.
Michel Pena, c'est vrai que vous aussi vous êtes emparé de ces codes et vous les avez revisités.
Oui, tout à fait. Alors là, c'est vrai qu'il y a un mot qui est important lorsqu'elle entre, elle pousse la porte, elle parle d'ordre et de symétrie, ordre et volupté aurait dû Baudelaire. Et je crois que cette notion de géométrie est très importante parce que lorsqu'on fait, on cultive un jardin, tout simplement, on plante des poireaux, on les plante en ligne droite. Ouais. C'est beaucoup plus simple qu'en zigzag. Donc il n'y a pas de notion de pittoresque du tout. Par contre, il y a une notion d'ordonnancement sublime, je dirais, qui est donnée par cette géométrie. Mais cette géométrie qui exprime en même temps une espèce d'ordre moral, d'ordre de la société, elle est compensée par une immense sensualité des plantes. Et en fait, c'est presque subversif, je dirais. Le parfum des citronniers, des orangers est subversif. Le goût de ces plantes, la saveur, la sensualité est subversive par rapport à cet ordre moral qui est exprimé par la géométrie. Et c'est cette dualité, je crois, qui fait l'essence même du Jardin d'Orient et qui nous inspire profondément. Parce qu'en effet, c'est un lieu de culture culturelle, mais qui donne en effet un lieu de culture culturelle et qui donne un lieu d'harmonie entre les hommes et la nature.
Et si nous ouvrions la deuxième porte ?
Je fermai la porte et j'ouvris celle qui suivait. Au lieu d'un jardin de fruits, j'en trouvai un de fleurs, qui n'en était pas moins singulier dans son genre. Il renfermait un parterre spacieux avec un plus grand ménagement. La rose, le jasmin, la violette, le narcisse, l'alicinthe, l'anémone, la tulipe, la rononcule, l'œillet, le lys et une infinité d'autres plantes qui ne fleurissaient ailleurs qu'en différents temps se trouvaient là fleuries toutes à la fois. Et rien n'était plus doux que l'air qu'on respirait dans ce jardin.
Alors là, on est dans les fleurs d'ornement. On n'est plus dans le jardin nourricier. C'est le plaisir des sens, des yeux, des odeurs, Sylvie Despentes.
Alors, parmi les contrastes, effectivement, qu'on rencontre dans les jardins d'Orient, il y a aussi cette dualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les jardins fleuris et de l'autre les jardins nourriciers. Le nourricier et l'ornement se croisent et vivent en harmonie. À l'intérieur de ces carrés, des strates successives où les arbres les plus hauts, le palmier dattier, par exemple, qui est nourricier, abrite l'oranger qui est juste en dessous, qui lui-même va abriter les arbrisseaux et les rosiers et qui elles-mêmes vont abriter les fleurs, qui elles-mêmes vont abriter, etc. Et donc, c'est effectivement c'est à la fois, encore une fois, une gestion intelligente de la chaleur, de l'ombre, de la lumière, qui fait qu'on rentre dans un monde à la fois merveilleux, extraordinaire et extrêmement rationnel.
C'est un travail d'architecte, hein, le travail du paysagiste. D'ailleurs, on dit architecte paysagiste, Michel Pénat.
Oui, oui, c'est un travail de paysagiste. En effet, il parle de l'espace aussi. On parlait de la géométrie à l'instant, on parle de la géométrie dans l'espace, dans les trois dimensions. Et la stratification dont parle très bien Sylvie Despentes montre qu'en effet, en même temps, le jardin est une relation d'abord à l'homme qui va le pratiquer, à la climatisation. C'est un travail extraordinaire à la climatisation, puisque tout notre propos, c'est de dire aussi que le savoir-faire des jardins d'Orient est source de modernité, et source d'invention, et source de nouvelles relations au monde qui nous entoure. Cette stratification, elle est absolument essentielle, comme la gestion de l'eau, là, avec une telle parcimonie, et en même temps associer, je dirais, la rationalité à la sensualité. C'est quand même un rêve de société, oui, si on y arrivait.
Vrai. Allez, troisième porte.
J'ouvris la troisième porte, et je trouvai une volière très vaste. Elle était pavée de marbre de plusieurs sortes de couleurs, du plus fin, du plus commun. La cage était de santal et de bois d'aloès. Elle renfermait une infinité de rossignols, de chardonnerets, de serins, d'alouettes et d'autres oiseaux encore plus harmonieux dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie. Les vases, où étaient leurs grains et leurs eaux, étaient de jaspe ou d'agate la plus précieuse. Le soleil était déjà couché et je me retirai charmé du ramage de cette multitude d'oiseaux qui cherchaient alors à se percher dans l'endroit le plus commode pour jouir du repos de la nuit. Je m'en rendis à mon appartement, résolu d'ouvrir les autres portes les jours suivants, à l'exception de la centième.
Nous ouvrirons donc les autres portes un autre jour, mais là, on arrive avec aussi un élément que vous pointez
alors,
dans votre exposition.
Deux éléments très importants, effectivement, les animaux. L'oiseau est très important dans le jardin oriental. L'eau attire l'oiseau, l'eau amène la fraîcheur, l'oiseau vient s'y désaltérer et charme, bien entendu, les oreilles par le chant. Un autre élément qu'elle souligne, effectivement, en poussant cette porte, ce sont les décors. Et les décors qui jouent un rôle très important. La façon de les contenants, des graines, des oiseaux, etc. C'est effectivement un élément essentiel du jardin oriental, c'est que tous les éléments sont choisis, tous les décors sont choisis pour être en harmonie avec les plantes ou pour reproduire les plantes lorsque les plantes ne peuvent pas pousser en abondance. Un simple patio, une petite cour carrée à l'intérieur d'une maison, car nous n'oublions pas, encore une fois, ce sont des espaces clos. Dans cette moindre cour, il y aura des décors où, si les oiseaux ne peuvent pas, il y aura toujours une fontaine, et ils viendront ou ils seront représentés sur les murs. Ils seront donc là présents de toute façon.
Qu'est-ce qu'on y fait dans ces jardins? Michel Pénat disait, en parlant de ces canards qui sont venus se reproduire, on y fait l'amour. C'est une des fonctions du jardin d'Orient.
Absolument, mais absolument. Comme je disais tout à l'heure, c'est un lieu intime. Donc c'est un lieu, effectivement, dans lequel, loin des regards, on peut... tous les sens doivent être mis en éveil. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, effectivement, le goût, l'oreille, les yeux, mais également les plaisirs terrestres sous toutes les formes.
C'est aussi une façon de montrer qui on est, de montrer son prestige.
Alors, c'est évidemment celui qui... Alors, d'abord, le premier des fantasmes, c'est de maîtriser la nature, comme disait Michel. Ça, c'est quand même la première des choses, c'est de se de s'affronter à cette nature et de la faire à l'image que l'on souhaite lui donner. Ouais. Donc, c'est la première des choses. C'est maîtriser l'eau, donc, comme on le disait tout à l'heure. Et maîtriser l'eau, il faut avoir quand même un certain pouvoir, beaucoup d'argent pour pouvoir maîtriser l'eau. Les jardins qu'on y voit et qu'on a beaucoup véhiculés à travers toutes les miniatures, persanes, etc., ce sont évidemment des jardins princiers, donc des jardins qui évoquent la puissance du prince en tant que pouvoir sur terre.
Michel Pena.
Oui, parce que Sylvie dit maîtriser la nature. En effet, c'est l'expression du pouvoir. Mais je pense que nous sommes plus tout à fait dans cette idée de maîtrise de la nature. On est plutôt, je parlais de négociation amoureuse avec la nature, et je pense que c'est exactement dans cette idée-là que l'on se place aujourd'hui. Je disais faire l'amour dans un jardin parce qu'en effet, c'est un lieu où la nature est bienveillante. Et en effet, où on a réussi à trouver, aujourd'hui, c'est ce rêve-là qu'on chérit au 21e siècle, c'est de non plus maîtriser à tout prix, parce qu'on a tellement maîtrisé, qu'on a tellement massacré, martyrisé, je dirais. Aujourd'hui, on aimerait bien qu'on s'aime tous les deux et qu'elle nous aime aussi. Donc c'est pour ça qu'on fait des jardins aussi dans les villes. C'est pour ça qu'on montre l'énergie qu'il faut, en effet, pour la cultiver, pour la faire venir. Toutes ces plantes dont vous parliez et conciliées, comme disait très bien Sylvie tout à l'heure, à la fois les plantes nourricières, mais aussi les plantes juste sensuelles, comme les roses, par exemple, le jasmin. On a beaucoup travaillé sur ces plantes-là dans le jardin, où on a à la fois cet aspect nourricier, cultiver pour produire, mais aussi pour donner juste une relation amoureuse, une relation sensuelle. Et je crois que c'est cette nature-là qu'il faut retrouver, qu'il faut redévelopper et avec laquelle on doit vivre heureux.
Voilà ce qu'on va faire. Tu vas prendre cette route, je vais couper par là et on se retrouve de l'autre côté.
Merci à Anne-Sophie Ladonne à la réalisation du Temps d'un Bivouac. Juste après le flash, rendez-vous avec Anne Pastor en terre indigène. Bonjour Anne.
Bonjour Daniel.
Alors de quoi nous allons parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, un sujet un petit peu difficile, car le savez-vous, être femme et être autochtone, c'est une double peine. Alors on va aller au Tchad, où une femme et son association, l'AFPAT, se bat contre le mariage forcé et pour l'émancipation des femmes. Et puis nous irons au Québec, où après la révélation de milliers de femmes assassinées et disparues, elles prennent enfin la parole. 80% des femmes autochtones sont victimes de violences conjugales. Mais aujourd'hui, enfin, la parole se libère.